La Voix des Bulles présente le 1A Club, le podcast BD presque hebdomadaire qui forge ses couteaux lui-même. Bienvenue au 1A Club, un podcast qui vous parle de bande dessinée, qui est presque régulier. Alors, en ce moment, un petit peu moins, enfin en tout cas la Voix des Bulles avait tendance à être régulière. On avait réussi à être hebdo pendant très longtemps, ce qui était plutôt pas mal. Et là, on a un peu plus de mal. Je suis 1A Pied, c'est moi qui vais être votre hôte pour cette émission.
Arrête de t'auto-flageller, c'est très bien ce
oui.
que tu fais.
Et parce qu'il me soutient de tout son cœur, je remercie Jérôme d'être parmi nous. Jérôme, de coup, bah, c'est toi qui vas commencer, en plus tu nous parleras
ouais,
de quoi ?
D'une belle italienne.
D'une belle italienne.
Motorosa.
Oh. Ducati.
Après ça, nous allons aller dans le monde des sorciers, des fantômes. Et pour nous en parler, nous avons un fantôme en l'absence de Tizak. Bonjour Tizak. Il arrive. Salut, il était en AFM Bio.
Bonsoir Tizak.
Oui, donc c'est tu vas nous parler de...
Je vais vous parler de Midnight Order.
Midnight Order, bien, très bien.
Un livre qui est tellement bien qu'il faut le conserver dans le papier.
Ouais. Ouais. Il est lourd.
Il est très lourd, mais il est très très beau. Il fait beaucoup de pages.
C'est super, bah, j'espère que qu'on en dira pas mal de bien. On enchaînera avec Thio qui a réussi à voler une BD à notre archiviste préféré. Archiviste qu'il n'a même pas lu pour le coup. Mais qu'est-ce que c'est mon cher Thio ?
Visage, c'est en plus je crois que c'est une BD faite par le service des armées, non ? Il n'y a pas un truc comme ça ?
Non, je crois qu'ils ont été recommandés par le truc de la mémoire de je sais pas quoi. Vas-y. T'es tombé sur le seul tome où il y a pas l'autocollant.
Qui nous dit il va faire tomber Midnight Order.
là on est en train de gérer une crise. Oui, donc alors c'est qui recommande ?
Le musée de la Grande Guerre.
Le musée de la Grande Guerre.
Du pays de Meaux. Exactement.
Oui, parce que le musée de la Grande Guerre, il est à Meaux.
Et oui, là où il y a du bruit.
Alors que cette BD ne parle pas que de la Grande Guerre.
Et de la guerre. Il y a du bruit et de la guerre.
Voilà. Mais donc, du coup, voilà. Donc, Visage. En fait, on se sent en chronique les quatre tomes. On fait l'intégrale comme ça. Voilà, l'histoire complète.
On est cash. On est comme ça. On va au bout des choses. Et je finirai pour vous parler d'un Spirou et Fantasio par. Et donc, suivi par Yann et Dany, qui s'appelle Spirou et la Gorgone Bleue. On jettera ensuite un œil sur un autre podcast dont Thio nous dira sans doute du bien, parce que sinon il n'aurait pas décidé d'en parler. Hein, j'imagine.
Un excellent podcast.
Voilà. Et ben,
les Chroniques Galactiques.
Ça sonne bien. Ça sonne bien.
Ça la pète un peu, les gars,
non ? Ouais, mais ils assument.
Ah, il faut assumer quand on se la pète. Voilà, je veux dire, on est le meilleur podcast BD sorti avant les années 2010. Voilà, il n'y en a peut-être pas d'autres, mais c'est nous les meilleurs. Sorti avant les années 2010. Hein, faut l'assumer.
Go.
Motorosa, une bande dessinée de Adèle Albrespi au scénario, assistée par Jean Robertin pour le scénario, qui est aussi au dessin et à la couleur chez Dargaud pour 20,50€. Mais qu'est-ce que c'est ?
C'est une BD, alors tu veux qu'on en reparle ?
Ok, c'est ça, quelle forme ? Est-ce qu'il y a des pages ?
Mais oui.
Hein, elles sont imprimées sur quel type de papier ?
Tu peux taper sur la tête.
Est-ce que tu peux me dire le papier qui est utilisé pour l'imprimer ? C'est important.
Depuis la disparition de sa mère, morte d'un cancer, Franca, oui, ça plombe un peu tout de suite l'ambiance là, d'un coup. Franca, 18 ans, quitte sa Rome natale et rejoint sa tante et son oncle à Carbonia. Non. Carbonia. Ouais, c'est la bonne prononciation ?
Ouais, je dirais.
Carbonia.
Oui. Carbonia.
Je sais pas, je le fais à la Corse, moi, donc c'est plus difficile.
Oui, mais si, parce que c'est accentué sur l'antépénultième syllabe.
Oui, c'est possible.
Donc, Carbonia, c'est mieux. Une petite ville de Sardaigne. Dans ce village, les jeunes...
On se tapait sur l'antépénultième syllabe. Pardon.
Avoir placé antépénultième, j'ai juste déjà la chronique, déjà, tu fais...
Tranquille.
Oh, énorme.
Dans ce village, les jeunes, comme les anciens, vivent au rythme de la course de moto annuelle sur le circuit amateur de la ville. Mais tout ça est très, très loin de Franca. Effacé, déprimé, déraciné... La jeune femme flotte dans la vie comme un bouchon au fil de l'eau. Oui, j'assume aussi cette image toute pourrie. Lorsque le beau Silvio lui propose de faire un tour sur sa moto, c'est la révélation. La vitesse, l'adrénaline lui donnent l'impression de revivre vraiment, peut-être pour la première fois depuis longtemps. Elle dépense tout son héritage pour acheter une superbe Ducati rouge, elle qui n'a jamais piloté un deux roues. Il n'est pas facile d'être une étrangère, une estrangère, dans un petit village, surtout lorsqu'on est une femme et qu'on marche sur les plates-bandes des hommes, et avec une moto rouge en plus. Elle hérite vite d'un surnom, Motorossa, pas vraiment flatteur dans la bouche des mâles du coin. Et les femmes l'aident pas vraiment non plus. Elle est qui, elle, pour se la péter comme ça? Son grand-oncle, je veux bien que tu...
Gigi,
tourne les pages.
L'oncle Gigi.
Si c'était possible, merci. Son grand-oncle est le premier à encourager cette nouvelle passion, lui qui a eu la même passion, et à cause de laquelle il a perdu l'usage de ses deux jambes. Malgré les protestations de son épouse, il coach Franca, qui décide de participer à la course annuelle envers et contre tous les mâles du village. Pas besoin d'aimer les sports mécaniques, hein, ni le vrombissement des moteurs pour apprécier Motorossa. C'est un premier album, et c'est un bon premier album. Et sa force, c'est de montrer une jeune femme en pleine reconstruction, qui tâtonne, qui doute, qui s'emporte, et qui te fait face aux a priori. Le destin de Jean Aubertin est fluide, dynamique, épuré. Bon, ok, un peu trop épuré. Hein. Mais on se laisse quand même porter par ce récit simple sur la fin de l'adolescence et la résilience. Et au final, vraiment sur l'envie de vivre. On se laisse aussi porter par le soleil et la Méditerranée, magnifiquement mis en couleur. Alors, je sais que je spoil et je vous emmerde. Si le climax de la course est plutôt inattendu et un peu trop grossier à mon goût, les dernières pages sont réellement touchantes. Pour moi, c'est une belle découverte.
C'est pas du spoil, ça. T'as juste dit ce que
j'anticipe.
C'est pas du spoil, ça. Il anticipe les critiques que tu vas faire, Kim Jong-pié.
Mais c'était pas du spoil, là. T'as juste dit que le climax et la fin. Ouais, voilà.
Non, le climax est inattendu. Et franchement, moi, j'ai pas trop aimé le climax.
Voilà, mais t'as pas dit ce que c'était, donc c'est pas du spoil. C'est très bien.
Ah, c'est quand elle.
Voilà.
Ok.
Messieurs.
Alors, moi je ne l'ai pas lu.
Moi je l'ai lu tout récemment, parce que je l'ai lu hier soir. Donc je suis bien, là déjà. C'est frais, c'est chaud dans la tête. Effectivement, moi le dessin ne m'a pas follement enthousiasmé. Mais il y a un vrai dynamisme, il y a une super énergie en fait dans le bouquin. Quand tu suis là, justement l'histoire de Franca et. Donc la moto qui va lui redonner le goût à la vie, cette vitesse qui va lui redonner justement de la vitesse, lui redonner du dynamisme, lui redonner envie de vivre, lui redonner envie de faire des choses, va lui redonner justement de l'élan à ses projets. Je vais arrêter les... Mais voilà, digression là-dessus, mais c'est vraiment... En plus, voilà, du coup, elle roule en Ducati, donc déjà, c'est pas mal. C'est un bon choix. Par contre, du coup, j'ai pas compris pourquoi est-ce que du coup, les Sartes ne sont pas contents qu'elle soit rouge. Ducati, non,
c'est juste qu'il se la pète en fait.
C'est juste que c'est ultra voyant, oui, mais c'est un gros cube. Et alors qu'en fait, elle sort de nulle part quoi.
Et alors, une Ducati, c'est rouge.
Je suis bien d'accord.
Voilà, à un moment donné, c'est voilà,
comme une Ferrari.
Ben oui.
Il fallait pas qu'elle choisisse ce modèle-là.
Mais on s'en bat. Et oh, quand t'as la
quand
t'as la Ferrari, t'achètes une Ducati.
Tu fais le malin parce que t'es pas sur place.
Ben je m'en fous moi déjà. Bah surtout la Sardaigne, tu vois, il y a des.
Voilà. Vous savez, moi, chez moi, les stars, dans les...
voilà.
Parce que quelque part, c'est... Ils sont arrêtés avant la Corse.
C'est ça.
Voilà.
Waouh.
Je suis d'accord avec toi que le climax, il ne m'a pas non plus... Tu fais...
Ouais, voilà, c'est ça, un peu quand même.
C'est... Ok. Alors, c'est vrai que Pierre, le personnage qu'on rencontre juste avant, l'archéologue, t'en parle. Mais du coup, tu fais « Ok, bon, ben, okay. soit. » Après, voilà, là, je trouve que c'est frais, c'est dynamique.
Et les dernières pages, moi, j'ai trouvé ça sympa, les dernières pages.
Oui, parce que du coup, tu es 10 ans après. Et finalement, bah, tu vois que c'est ce qui s'est passé cet été-là. Les a tous marqués quelque part.
C'est un peu le concept du on retrouve les copains de lycée ou les copines de lycée.
Il y a une chanson là-dessus.
Hein, on s'était donné rendez-vous
dans 10 ans.
Et c'est un peu ça. C'est celui qui fait la guitare, celui qui fait la moto, celui qui fait ci, celui qui fait là. Qu'est-ce qu'au final ils sont vraiment devenus? Qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie? Voilà, c'est vachement intéressant.
Et toi alors, du coup?
Ben, j'ai passé un chouette moment, bien meilleur que ce à quoi je pouvais m'attendre.
Décidément, avec les BD que je propose, c'est...
On s'attend toujours à de la merde quand ça vient de toi, en fait. C'est ça,
enfin,
en fait.
Lui, en tout cas, il s'attend toujours à de la merde.
Ouais, tu vois. Mais globalement, tu arrives à le surprendre de bonne façon, donc c'est pas mal.
Comme je m'attends à rien, finalement, Jérôme, mais voilà.
C'est ça. Ça ne peut être que j'ai l'impression d'être à côté de mes collégiens, tu sais, quand je leur dis, mais si, mais lis ça, c'est vachement bien. Et qu'à la fin, ils me disent, ah ouais, monsieur, quand même, c'était bien.
Non, alors, en fait, le style graphique m'a pas franchement beauté au démarrage, et au final je l'ai trouvé très intéressant. Je reviens sur, comme sur Mathieu, avec ce côté très dynamique qui colle très bien au propos, à la vitesse, à la moto, etc. Et la typo en fait de la couverture m'a presque induit en erreur, tu vois. Ça fait quelque chose un peu gamin,
Topolino,
alors qu'en fait il y a une vraie problématique plus psychologique derrière, et qui plein de questions qui se posent. Donc voilà, donc si tu veux, la devanture ne correspond pas forcément au contenu. Et du coup, c'est pour ça que je te dis que c'était une bonne surprise. Ouais, je ne savais même pas que c'était toi qui l'avais proposé, sinon je ne l'aurais pas lu.
Pour un premier album, franchement, c'est,
ah non, c'est
prometteur.
Premier album, c'est effectivement un bon coup d'essai, on va dire. Donc voilà, donc un chouette moment de lecture qui fonctionne très bien, de très bonnes idées à l'intérieur. Pas un coup de cœur, mais un chouette moment de lecture.
Donc, Moto Rossa d'Adèle Albrespi et Jean Aubertin chez Dargo pour 20,50€.
Attends.
The Midnight Order, un livre que l'on manipule. Vous n'avez pas mis les gants, les amis, pour le manipuler.
Putain, n'importe quoi.
Une bande dessinée de Mathieu Bablé, accompagnée de beaucoup de gens.
Pourquoi il y a marqué Mathieu Bablets?
Mathieu Bablets, c'est le Midnight Order.
Parce que Mathieu Bablets,
Midnight Order de Mathieu Bablets, tu vois, c'est à l'américaine, quoi.
Ok, ça, l'américaine.
Voilà. Chez Sèvres Road. Voilà. C'est
belle,
ça, non?
La belle 619.
Oui, mais c'est rue de Sèvres.
C'est rue de Sèvres.
Maintenant, c'est rue de Sèvres. Voilà, depuis qu'en Kama, ils sont en procès avec leurs employés et tout.
Ouais, ouais. Tout ça, c'est une autre histoire.
Ouais, c'est une autre histoire.
Alors, dans les collaborateurs, je vais parler de Claire Fauvel, donc d'Isabelle Bautian, de Sumi, de Titouan Bolin, de Quentin Rigaud, de Thomas Rouzière, de Rousse, de Alanva et de Daphné Collignon. Voilà, comme ça, c'est fait, on n'en parle plus, on me demandera plus qui c'est.
Il y en a
qui
dont on a déjà entendu le nom, donc quelque part, c'est pas mauvais signe.
Donc voilà, donc toujours est-il que nous allons donc nous positionner entre le 15e et le 16e siècle. Les sorcières guérisseuses ou les jeteurs de sorts sont pris pour cible dans une très grande chasse aux sorcières. Bien sûr, les femmes, notamment celles qui sont en rupture avec l'ordre patriarcal, sont prises pour cible, sont persécutées, sont poursuivies. Les sorcières, donc, comme on les appelle, qui garantissaient l'équilibre entre les vivants et les esprits, furent quasiment anéanties. L'ordre du monde était donc menacé. Les forces occultes pouvaient à tout moment prendre le dessus puisqu'il n'y avait plus d'éléments de gardiens. Ainsi est donc né l'Ordre de Minuit, une organisation structurée de sorcières à travers le monde, ayant pour objectif de combattre donc ces forces maléfiques. L'Ordre a évolué et s'est perpétré de génération en génération. Là, nous allons suivre deux personnages principaux, Johnson et Sheridan, qui sont deux des membres importants de cet Ordre de Minuit. Elles ont pour mission de traquer leurs consœurs sorcières de par le monde, parce qu'elles sont devenues trop puissantes et donc incontrôlables. Elles ne gèrent pas leur pouvoir, elles mettent en danger les autres, elles se mettent en danger elles-mêmes, il faut donc les gérer. Et une terrible solution a été trouvée pour réduire leur pouvoir, on leur tranche les mains.
Parce que pour lancer des sorts, on utilise ses mains.
Voilà. Mais à mesure qu'elles effectuent toute leur mission, eh bien, elles perdent progressivement leur humanité, c'est Johnson et Sheridan. Et donc l'une, Sheridan, va se questionner vraiment sur sa place au sein de l'ordre, tandis que l'autre, Johnson, est chargé d'éradiquer une toute nouvelle menace. Et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit d'une sorcière qu'elle connaît parfaitement bien, en l'occurrence sa sœur. Donc j'en reste là pour le pitch général de tout ça.
Alors, Mathieu, très général, parce que construction, vas-y.
Voilà, je préfère ne pas aller plus loin que ça, parce que... Je vais parler de la construction après. Donc Mathieu Bablé, pour rappel, La Belle Mort, Carbone et Silicium, Shangri-La, tout ça, s'imprègne à nouveau de l'univers magique de Midnight Tales pour nous proposer un nouvel ouvrage collectif. Pour un rappel, il y a eu 4 volumes précédents qui s'appelaient donc The Midnight Tales et chacun était composé de 4 histoires différentes. Là aussi, comme pour ce tome-là, il avait fait appel à des illustrateurs et à des scénaristes différents pour raconter le destin de sorcières appartenant à l'Ordre de Minuit et qui étaient donc chargés de pourchasser les forces obscures.
On ne les a pas lus.
Alors, on ne les a pas lus. Moi, ça fait plusieurs fois que je vais sur les sites en ligne, notamment Amazon, pour ne pas en parler. Peut-être que je le prends, peut-être que je ne le prends pas. En fait, je l'ai mis de côté dans mon panier et j'attends de voir ce que je fais.
C'est Babelé, les Midnight Tales aussi ?
C'est Babelé qui fait exactement pareil.
Je crois que c'était d'autres auteurs.
C'est d'autres auteurs, plus Babelé, pareil, toujours.
Je crois que c'était plus anthologie, plus.
Pourquoi Zone, parce qu'on ne les trouve plus chez notre libraire préféré ?
Eh bien, parce qu'ils sont en rupture un peu partout. Donc, il en reste quelques exemplaires chez Mamadou.
Parce que c'était Ankama et que Ankama fait plus de label 619.
Voilà, donc dans chacun de ces tomes, il y avait quatre histoires différentes. Ce nouveau roman graphique, donc The Midnight Order, s'inscrit dans le même univers. Il se positionne comme une conclusion des quatre premiers albums, qui pourraient être une première saison et celui-ci une deuxième saison. Sachant que l'ensemble peut se lire de façon indépendante, puisque comme vient de le dire Pierrick, nous n'avons pas lu les quatre premiers tomes. L'immersion dans l'ambiance fantasmagorique, magique, effrayante se fait dès la prise en main du livre. De l'objet livre, oserais-je dire, puisqu'on a une édition qui est parfaitement bien soignée. Et je remercie mes comparses d'en avoir bien pris soin. La bande dessinée ressemble...
Il nous l'a trimballée dans du papier bulle non-stop, et on lui a gardé dans son papier bulle, parce qu'on était très gentils.
La bande dessinée ressemble à un grimoire orné de dorures, une invitation donc à plonger à l'intérieur de ses sortilèges. Nous avons ici non pas 4, mais 8 chapitres qui construisent l'histoire, où se relaient donc 8 artistes tous différents mais très talentueux, parfois au scénario, parfois au dessin, parfois aux deux, mais toujours orchestrés par Babelé, qui lui-même met la main à la pâte.
Fait les interludes.
Notamment. La richesse de cette collaboration se reflète par la multiplicité des points de vue, des propositions graphiques, qui gardent pourtant entre elles une certaine harmonie, une certaine cohérence. De quoi satisfaire donc tous les goûts. Certains pourront peut-être reprocher une approche un peu trop girly, pas assez effrayante, pas assez réaliste. Personnellement, ça ne m'a pas du tout dérangé, parce qu'il y a vraiment de la qualité dans les productions. Voilà. Donc le collectif du Label 619 continue de nous en mettre plein les mirettes avec une BD qui a une pagination assez conséquente. Je ne donnerai pas le nombre de pages, mais on est presque à 300. 274. Et qui donc devrait ravir les aficionados d'ésotérisme, de sorcellerie, de Mathieu Babelé, mais aussi les lecteurs curieux de découvrir ou de redécouvrir les différents artistes qui ont composé ce collectif, qu'on apprécie déjà ou qu'il ne mérite qu'à être connu. Un coup de cœur.
Thio, tu es en train de le refeuilleter.
Combien il coûte ?
25 euros.
Il est pas cher du tout pour le format. Ouais,
c'est pour ça que je pose la question.
Voilà.
Alors en fait, je viens de le refeuilleter parce que donc j'ai dû partir pendant ta chronique malheureusement et en fait là d'un coup je suis revenu, j'ai dit mais putain de quoi ça parle déjà, parce qu'en fait aucun souvenir, rien qui revenait. Et là en fait j'ai feuilleté 3 pages, j'ai fait ah oui ça y est tout est revenu d'un coup comme ça.
Tout est revenu. Waouh, tu t'es fait fracasser.
C'est la magie.
C'est la magie. Ben c'est ça. C'est un peu la magie.
Quand tu viens, c'est la magie.
Attends, je le pose délicatement quand même.
Titre.
Gigi, quand
Gigi,
tu viens.
Gigi, c'est toi là-bas dans le noir ? Non, c'est pas celui-là ?
Ça va laisser au fond de la bouteille.
Comment ?
Alors, donc, qu'est-ce que j'en pense de Midnight Order ? Ben écoute, j'ai trouvé que c'était une très... Enfin, on revient un peu dans l'épopée, je trouve. C'est vraiment... une aventure au long cours, tu commences, il y a des années qui vont se passer entre le début et la fin du tome. Et bah, c'est super. Je trouvais que la narration était super bien écrite. C'est une bonne
histoire. Il y a des gens qui s'étouffent.
Je me suis étouffé en buvant un verre d'eau, excusez-moi.
Ouais, ce qu'on dit.
À chaque fois, c'était pastel. Là, je dis un truc.
Et en fait, il veut t'empêcher de parler.
C'est ça, en fait.
Non, vas-y, parle.
Il y a un complot. Il y a un complot, quoi.
Ouais. Pas trop de plots jusqu'ici, mais vas-y.
Là, c'était pas moi.
L'autre, il va nous cracher sur ce mec-là à la gueule. Non, mais sérieux, les gars, aucun respect de rien, quoi. Donc, Midnight Order, franchement, un super bouquin. Je me suis régalé. Même si on n'est pas obligé de le mettre sous bulle, quand même. C'est pas non plus un truc... voilà. Mais je vous avoue,
on respecte les livres des autres.
Mais je vous avoue que quand vous l'avez sous bulle, que vous le sortez du papier bulle, que vous voyez la superbe couverture du bouquin, je vous dis tiens, je crois que je vais lire le Da Vinci Code et je vais découvrir des secrets sur la vie et sur le monde qui m'entoure. Et après, je serai éclairé. Je découvrirai des choses.
Enfin, vous savez que le Da Vinci Code, c'est de la merde quand même. On est
courant.
Oui,
oui.
On est tous au courant.
Ouais. Ah, okay. Je l'ai lu, j'ai détesté. Okay.
J'ai pas lu, à toi.
Donc.
Mais comment tu peux dire que c'est la merde si t'as pas lu
Da Vinci Code ? Non, je parle de celui-là. Je parle de la BD que j'ai pas lu.
Ah, d'accord. Non, je pensais... Non, voilà, ok. Oui.
Midnight Runner.
C'est la merde, mais je l'ai pas lu.
Un grand classique. On est des spécialistes.
On met ça cœur. Non, je l'ai pas lu, mais c'est de la merde.
Alors, je vais tout de suite parler du côté
du anthologie.
Du côté anthologie. C'est-à-dire qu'en gros, on a une grande variété graphique. T'as pas trop parlé aussi des côtés un petit peu encyclopédiques. Il y a vraiment des articles de fond et des nouvelles qui sont intéressantes. Il y a un travail sur la forme qui est varié. On n'a pas que de la bande dessinée. Le reproche que je ferais, c'est que clairement, pour moi, le niveau des artistes n'est pas totalement égal. Il y en a, on sent que... Bah, après, c'est peut-être une fausse impression, hein, mais il me donne l'impression de débuter, de démarrer, où il y a certaines planches où ils assurent, et puis d'autres où, bon, c'est pas fantastique. Voilà, donc il y a un petit peu ce côté-là. Et puis il y en a d'autres qui sont mais des tueurs de la mort. Maintenant, je trouve ça très intéressant dans ce type d'anthologie d'associer des débutants à des gens vraiment expérimentés et qui assurent. Le côté encyclopédique, j'ai beaucoup aimé parce qu'il y a vraiment un grand apprentissage sur l'histoire des sorcières, une approche très féministe, plus que girly, j'irais jusqu'à dire féministe sur le sujet, mais
qui
prend des pincettes quand même, justement pour dire le féministe radical, c'est pas top non plus. Qui prend ces pincettes-là et c'est plutôt intéressant. Et surtout que tout cet article-là, alors que tout est dirigé par un homme hein, au niveau du bouquin, sont rédigés par une femme. Donc on a vraiment cette variété de points de vue. On trouve des scénaristes et des dessinatrices, moi que j'aime beaucoup, et ça marche bien. Et surtout, j'ai bien aimé ce côté où on a l'impression d'avoir plein d'histoires courtes qui ne sont pas liées, en tout cas les premières, et très très vite tout se lie.
C'est ça.
Tout est lié et tout marche très très bien. J'ai aussi eu l'impression d'être dans un univers de JDR. Oui, je veux dire, là, j'ai un cadre de campagne. Là. Moi, je dis ça, j'ai un cadre de campagne tout fait. Et je pense que ce n'est pas totalement faux parce que dans les crédits au début, il remercie Anthony Combrexel, alias Ino, qui avait fait de la bande dessinée. Il avait fait Silence, que je dois voir par là, qui était pas mal. Et qui a fait aussi pas mal de jeux de rôle de très grande qualité en jeux de rôle indé. Et je pense qu'il y a un côté rôliste au milieu là-dessus. Pour moi, il y a une forme d'évidence là-dessus. Ça marche super bien et ça donne envie de se plonger dans cet univers et d'avoir un petit système de règles pour jouer dedans.
Peut-être qu'il remercie Justino parce que c'est son maître du jeu et que c'est ici qu'il le remercie.
Non, c'est pas mon maître du jeu, mais j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Non, mais parce que s'il ne le remercie pas, il sait que dans sa prochaine aventure, il va se faire défoncer. Donc,
possible,
on remercie toujours le maître du jeu.
Ouais, on remercie toujours le MJ.
Et on lui offre des chips, dont des intéressés, bien sûr.
Franchement, tu vois, moi je pensais que les Midnight Tales, c'était d'autres anthologies avec une thématique, mais c'est quand même pas forcément mené par. Par Bablé. Et là, ouais, non, ça tient totalement la route, c'est une belle histoire. Il y a un changement de paradigme dans l'univers en cours de route qui fait qu'il se passe des choses importantes dans cet univers.
Et il y en a combien des Midnight Tales ?
Il y en a quatre, enfin, il y a quatre tomes et chaque tome contient quatre histoires.
Qui là, pour le coup, sont vraiment indépendantes, hein, il me semble.
En plus de celui-là.
Ouais.
Oui.
Qui ont été édités avant. Donc.
Mais celui-là a vraiment un côté plus...
Et du coup, tu les as ? Pour l'instant, c'est dans ma wishlist. Je ne les ai pas encore achetés. Ils sont à 13€ et des cacahuètes, le top.
On est sur du plus petit format, juste 4 histoires.
Ah, mais merde, c'est pour ça.
C'est pour ça, il hésite. Oui. C'est un peu plus léger.
13€ seulement pour le nombre de pages.
Putain, alors, Amazon s'est planté. Tout à l'heure, ils m'ont livré les colis des trucs qui étaient dans ma wishlist.
Ah, ça, c'est
tant qu'ils ne me les font pas payer, moi, tout me va bien.
En tout cas, voilà, un très, très, très beau bouquin. J'ai passé un très bon moment. Voilà, juste ce petit regret qui est à la fois une qualité parce que je pense que c'est donner de la visibilité à plein d'auteurs différents, mais que bah, parfois, on sent qu'il y a des dessins plus matures que d'autres au niveau du style. Je ne parle pas que de la qualité graphique, je parle vraiment de la maturité dans le dessin.
Non, je ne suis pas forcément d'accord avec toi sur ce point. Ouais, moi, j'ai vraiment bien aimé de naviguer dans le même univers avec des propositions graphiques différentes et je les ai toutes trouvées intéressantes, je les ai toutes trouvées abouties. Donc voilà, moi ça m'a vraiment bien plu quoi. Pour moi c'est un coup de cœur.
Oui,
les choses soient claires. Donc après on va peut-être passer au vote sur le coup de cœur.
Là, il faut qu'il apprenne
à dessiner. Bon, je sens que je vais sentir tout seul, mais.
Oui, mais ça, c'est un choix graphique, là. Je pense que. Alors, j'hésite entre le choix graphique et le fait de. Oui, je... Là, quand je l'ai regardé, je me suis dit, soit il ne sait pas dessiner les pieds, il a trouvé une façon de ne pas en faire, mais ça marche. C'est pas trop.
Moi, je pense que quelqu'un qui sait dessiner les pieds et les mains, il fait pas ça.
Voilà. Ouais, voilà. Tu vois, il a pas lu. Et il
s'est dit, les mecs, ouais. Voilà, quoi.
Non, mais je suis d'accord, c'est chiant à dessiner les pieds et les mains.
Il y en a qui adorent ça. Ça, on est d'accord.
Peut-être qu'il sait le faire, mais qu'il avait la flemme, je veux dire, à un moment donné.
On parle pas de fétichisme, hein. On parle de dessin.
Ah, pardon. Donc, voilà.
Non, il y en a qui aiment beaucoup ça, certes, mais c'est quand même chiant à dessiner. Enfin bon, voilà. Donc non, alors le coup de cœur, je suis désolé, c'est un Mathieu Blablé. Je crois qu'on les avait tous mis en coup de cœur quand même depuis le début, les Blablé, non ?
Pas forcément, mais...
Alors, ce serait un oubli.
Voilà. Après Cyril Bonin, Mathieu Blablé.
Donc Pedroza, Blablé et Bonin, excusez-moi les gars, mais alors bon, je vous fais cadeau de Jim pour ce soir, mais
moi je prends pas le cadeau, hein. Je veux pas. Hein.
Monsieur est trop bon.
C'est...
Ouais,
non.
C'est comme ça. C'est pour moi.
Non, je suis désolé.
Donc, Midnight Order.
Voilà, donc vous pouvez me suivre sur le coup de cœur, cher auditeur.
Oui, voilà, bah, ça reste que si vous aimez les goûts de merde de Tizak, n'hésitez pas à l'acheter, ça va vous plaire.
Ok, alors ça c'était gratuit.
Oui, totalement.
Mathieu, ne fais pas attention à ce qu'il vient de dire.
Non,
ça,
mais j'ai
ça
beaucoup
va aimé. Chier dans ta prochaine chronique.
Ouais, je sais.
Mais surtout, c'est
prévu. C'est prévu.
Putain, je vais me régaler.
Ah, tu peux y aller.
Je vais me régaler.
Donc Mathieu Babler,
restez jusqu'au bout,
la version 25 euros. Bon, allez, on continue.
Ça va être une boucherie au Valis.
On entame les boucheries avec.
Pourquoi la boucherie?
Visage. Il y a de la boucherie.
Ah oui, il y a de la boucherie. Ok, d'accord. Ouais, ok, d'accord. Je valide. Ok.
Tio. Visage, quatre, ce qui nous reste, 4 tomes.
C'est con.
Oui, qu'est-ce qui se passe?
C'est comme ça.
C'est que j'ai 4 bouquins à bout de bras et que j'ai...
Il avait un bras d'un côté du poteau, un bras de l'autre côté. Il était comme un con en train de tomber.
Voilà, c'est tout. Donc, visage.
Alors, je te donne les auteurs parce que c'est ce que je suis censé faire à chaque fois. C'est de Nathalie Ponsard-Gutnecht et Michal Bossan-Ogriafa au scénario. Et c'est dessiné et colorisé par Aurélien Morinière. Chaque tome coûte 15,50€ chez Glénat.
Alors, je vais essayer de faire un résumé pitch.
Oui, de 4 tomes, c'est facile.
Des 4 tomes sans spoiler et en étant assez court.
À la fin, ce n'est pas les Allemands qui gagnent.
Ah, ça, c'est une dystopie. Non. Ah ben non, c'est ça, c'est la réalité, merde.
C'est le Medio Château. Ah non, c'est l'autre.
On va suivre en fait donc l'histoire donc de Louis Carbras, qui est un Breton pendant la Première Guerre mondiale, qui va croiser donc Liselotte Ruff, qui est une journaliste. Donc ils se croisent, on va dire, sur un des champs de bataille de la Première Guerre mondiale. Ils se découvrent, ils vont avoir un enfant, et puis ben, la fin de la Première Guerre mondiale va faire que ils ne vont pas se revoir, d'accord. Même Louis, en fait, ne sait même pas que Liselotte est enceinte.
Non.
Et de leur amour va naître donc un enfant. Alors, Georg.
Mi machin, mi bidule.
Georg.
Georg.
Bon, Georg.
Moi, ouais. Je l'aurais appelé Georg. Mais
Georg.
Après,
ça fait pas très allemand, mais bon. Enfin, Georg.
Vous demandez pas. C'est une petite éructation
voilà.
Comme
voilà.
Ça.
Georg. Et en fait, ce gamin-là, en fait, va grandir. Dans l'Allemagne d'entre-deux-guerres, dans un orphelinat. Parce que, oui, aussi, comme c'est l'enfant de la honte, on a dit à sa mère qu'il était mort-né. Donc, elle ne sait pas qu'il est né. Et donc, lui, il va grandir dans un orphelinat en étant toujours considéré comme un bâtard. Parce que tout le monde sait.
En même temps, c'est un bâtard.
Voilà. Tout le monde sait plein de choses sur lui, mais lui ne sait rien. Et lui, il va devoir chercher dans les dossiers de l'orphelinat pour savoir comment est-ce qu'il. Et bon, voilà. L'histoire, en fait, de visage, c'est qu'on va suivre. Donc. 3 générations, on va dire, d'une famille qui vont traverser, on va dire, qui vont traverser l'entre-deux-guerres et la Deuxième Guerre mondiale, tout en nous, enfin, tout en montrant, on va dire, la montée du nazisme, le contrôle de la presse en Allemagne, donc par l'intermédiaire de Liselotte, la France occupée avec Louis qui vit à Paris et qui travaille dans un cabaret où l'armée allemande a ses habitudes. Et on va dire tout ça en fait permet on va dire de comprendre une partie de la guerre dans le spectre justement de cette aventure familiale.
Les conditions de vie.
Les conditions de vie des soldats. Enfin, on va avoir beaucoup de choses qui nous retiennent dans les quatre tomes. Georg va ensuite tomber amoureux.
Oh mon fils. Je suis super.
Le fils de Liselotte. On va l'appeler le fils de Lislotte, voilà, je pense, c'est plus ça. Le fils de Louis. Hein, voilà. le fils de Louis. Alors, le fils de Louis va découvrir assez rapidement, quand même, son père dans un. Justement, dans le, je crois que c'est dans le tome 2, il découvre son père sur un champ de bataille.
Non, c'est pas la fin du tome 1.
C'est la fin du tome 1, je crois. C'est la fin du tome 1. En fait, il découvre son père sur un champ de bataille. Et là, du coup, Louis comprend qu'il a un fils, mais il ne le savait pas. Et en fait, tout ça en fait, va faire que ben, personne ne savait que les autres existaient ou étaient encore en vie. Et le but ultime de toute cette petite famille, ça va être d'essayer de se retrouver et de se sauver les uns les autres. Je ne vais pas aller plus loin dans l'histoire parce qu'après, il y a encore...
Ouais, aussi, on va pas trop en débrouiller.
On va dire, le fils de Lislotte aussi va avoir une amoureuse. Cette amoureuse, donc, c'est Sheila, qui est donc une membre de l'IRA, et, donc irlandaise. Et qui va aussi travailler pour les Allemands pour certaines raisons. Et
ouais. Pour être contre les Anglais. Qu'on connaît.
Oui, qu'on connaît. Non, mais après, je ne veux pas aller plus loin parce qu'après.
Les amis de mes ennemis sont.
Après, il y a aussi un petit twist final qui fait que.
Est-ce qu'en 4 tomes, ça se finit ?
En 4 tomes, ça se finit.
Ça se finit totalement.
Ouais. C'est ça qui est top. L'histoire est totalement terminée en 4 tomes.
Il boucle la boucle même.
Il boucle la boucle, effectivement. C'est le mot boucle est bien amené. Graphiquement, moi, j'ai trouvé ça assez joli. Mais surtout, je trouve que c'est la narration et l'histoire en elle-même qui est bien menée. Et qui nous permet de découvrir plein de choses de la Deuxième Guerre. Même, c'est donc on en est déjà beaucoup. Hein, mais qui explique bien. C'est...
Moi, j'avais jamais lu de truc sur un Georg. La Frenchman, c'était une nouveauté, quoi.
Moi, dans Kid Paddle, il y avait des trucs sur les... Ah, c'est les Blurgs, pardon, c'est ça. voilà. Moi, je trouve ça, c'est une belle histoire, en fait, ce visage en 4 tomes. Je ne vous dis pas que c'est, je vous dis pas que c'est un coup de cœur, clairement, mais c'est une belle histoire sur la Deuxième Guerre mondiale.
Moi, j'ai bien aimé ce côté sur... Ce problème de transnationalité, c'est-à-dire qu'en gros, on va vraiment avoir des personnages qui sont qui passent d'une qui sont toujours dans ces tranches de la nationalité entre ces Alsaciens qui ont combattu chez les Français mais qui ensuite se retrouvent enrôlés de force chez les Allemands, ces Irlandais qui sont contre les Anglais, donc mais aussi contre les Allemands un peu aussi, ils savent plus trop, tous ces gens qui sont un peu à la limite de la frontière. Et ça le montre, c'est-à-dire qu'il n'y a pas, dans cette histoire familiale, il y a très peu de personnages qui sont de la même nationalité. Ça montre vraiment toutes ces différences-là, et c'est plutôt intéressant là-dessus, parce que ça s'éloigne beaucoup du côté très, très manichéen qu'on peut avoir sur l'image de la guerre, en fait. Il y a des Allemands gentils, il y a des Allemands méchants, il y a des méchants de tous les côtés, des gentils de tous les côtés. Tout se mélange et c'est plutôt intelligemment fait, tout en traitant de sujets autour de la première et deuxième guerre mondiale qui sont connus, mais d'autres où ils vont chercher un petit peu des franges qu'on connaissait peu. On note particulièrement l'intérêt du co-scénariste Michel Ogrieffa pour le côté irlandais de l'histoire, qui est quand même assez travaillé. C'est un côté que j'ignorais totalement, en fait. Ils vont chercher parfois des petites anecdotes, et il y a un petit côté documentaire à la fin de chaque tome, qui vont chercher chaque anecdote pour nous expliquer des points. Alors, j'ai juste eu un regret, c'est qu'à un moment donné, il se passe un truc dans un tome, et j'ai eu aucune explication derrière des circonstances. Je crois que quand ils vont se rendre aux Russes en disant on est français, on est copains, etc., et qu'ils se font couper les doigts.
Ah oui, exact, oui.
Ouais, et là, je disais, attends, j'aurai le contexte à la fin dans le petit dossier. Eh ben non.
On coupe les doigts aux soldats pour plus qu'ils tirent au fusil.
Oui, c'est ce que je me suis dit. C'est ce que je me suis dit, mais voilà, je sentais qu'il y avait une volonté de citer une anecdote dans le... Non, mais c'est ceux-là qui coupent en plus.
Non.
Dans l'album, il me semble que c'est ceux-là qui coupent.
Non, c'est ceux-là. Bon. C'est sur le même principe que je te fais.
Oui,
c'est...
non, je sais, mais il me semblait que dans l'album, il coupait d'autres. Bon, après, disons, il y a cette anecdote-là, je me sentais qu'il y avait un truc à raconter derrière. Et comme dans les premiers tomes, à chaque fois qu'il y avait un truc, je me suis dit, il y a un truc derrière, j'avais le côté documentaire à la filet. Voilà. Bon, c'est un détail, franchement. Parce que voilà, c'est plein de petits points, de petites anecdotes sur la Première et Seconde Guerre mondiale qui sont plutôt bien menées. Et une histoire de transmission, de famille, de recherche, de mystère, et puis qui traite les côtés les plus glauques qu'il peut y avoir aussi de la guerre. C'est très, très intéressant. Il y a aussi un point, c'est que surtout sur les premiers tomes, parfois on a un peu du mal sur le passage des années. On passe de 14 à 41, puis à 39, puis à 43, puis à 16. Et sur les premiers tomes, l'idée est très très bonne, mais ça rend la narration parfois un peu complexe, oui. Parce qu'on n'a pas, il y aurait eu un repère graphique, tu vois, sur les époques, quelque chose qui te permet de les marquer, ça aurait facilité la lecture. Là, des fois, j'étais un petit peu largué, mais franchement, ça marche très bien. Si.
Alors, mon début de remarque va faire un peu comme sur Gone with the Wind, c'est-à-dire que c'est pas ma came. C'est généralement le genre de BD qui me saoule royalement, et je me suis enfilé les 4 tomes d'affilée. Ça marche très bien, c'est très bien fait, c'est très bien raconté. Alors, hormis ce petit écueil, comme tu viens de le soulever, de saut temporel sur les 2 premiers tomes de mémoire, où ils en abusent un petit peu. Sur la suite, c'est quand même un petit peu plus linéaire, on change que de lieu et plus forcément d'époque. Alors qu'au début, ça part dans tous les sens, quoi.
Mais c'est ce qui permet de construire le mystère
ça,
et le.
C'est ça, voilà. C'est ce qui permet de construire aussi le début de l'histoire, mais c'est un petit peu pénible. Heureusement qu'on est sur du papier et pas sur une tablette, parce que là, pour le coup, en tablette, je reviens en arrière pour vérifier où est-ce que j'en suis, etc., ça aurait été vraiment insupportable.
Oui, toi aussi, tu as tourné les pages pour
te dire quelle année, là, régulièrement, déjà au début, j'ai fait des petits retours en arrière, etc. Un point très, 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 très important, j'en avais parlé dans une émission précédente.
Il y a un petit résumé.
Au début de chaque tome, dans le volume précédent. Voilà, ça prend 5 à 10 lignes, et au moins, on se repositionne. Les personnages, qui s'est passé auparavant, etc., c'est tout bête, mais c'est juste génial. Voilà.
Bah, ça, surtout que ça te permet de remettre dans l'ordre les trucs qui étaient dans le désordre.
Et toi, ça te permet en 30 secondes, de te replonger totalement dans ce qui se passait. Alors, moi, j'ai enfilé les 4 tomes d'affilée, super, j'en avais moins besoin, je dis bien moins, parce que l'air de rien, la narration sur les premiers tomes, on en a parlé, était un peu complexe. Là, au moins, ça permet de clarifier les choses qui, éventuellement, auraient pu être un peu brumeuses. Voilà, ça prend quelques secondes à relire, et du coup, tu rentres tout de suite, dès le début de l'album, dans l'histoire. Et ça fonctionne divinement bien. Donc voilà, pour moi, ça devrait être dans tous les bons collèges et les bons lycées. Tellement c'est bien foutu, c'est ultra intéressant, voilà, ça marche très bien.
Voilà. Et notre archiviste qui est dans un collège,
je le dirai. Ah,
réussi à passer à côté, il va falloir que tu le dises. Hein. Voilà. Oui, non, vraiment un bel ouvrage qui arrive à allier le pédagogique et la fiction divertissante, j'ai envie de dire.
C'est ça. Ça permet de garder le lecteur un peu en haleine. Et les carnets sont quand même très historiques et très, très bien foutus.
Il est acquis
C'est un SP. On n'a pas décidé.
Ah ouais.
Je crois que c'était Thio qui avait demandé. On prend chacun un tome.
Ah ouais, voilà, on prend chacun un tome, c'est pas
chacun. Ah ouais. Ah, et quand on est lié par le.
Et quand on a besoin de se revoir, on s'envoie les tomes.
Ouais.
D'accord. Bien. Ce sera un signe.
Moi, je suis open.
Donc. Je ne sais pas de quoi tu parles, mais si tu veux.
Visage de Nathalie Ponsard, Gutnecht, Michel Bossan, Ogriafa et Aurélien Morinière chez Glénat pour 15,50 €.
Ouais, ça, par contre, c'était insupportable. Il faut déchanger le nom des auteurs. Vraiment, c'était insupportable.
Ouais, mais leurs parents, ils ont fait n'importe quoi.
N'importe quoi.
Vous abusez, quoi. Toujours une histoire de lignée. Spirou et la Gorgone Bleue, un Spirou part, qu'ils ont refilé à Dany et Yann. Dany et Yann, alors.
Qu'ils ont refilé à Dany et Yann. Alors, on a un projet de merde, les gars. Vous allez vous débrouiller avec.
Donc, Yann est un scénariste, un vieux de la vieille, hein, qui a fait des tonnes de choses.
C'est vrai que Dany, c'est un jeune.
Non, mais je vais venir après. Je l'ai fait dans l'ordre.
D'accord.
Donc, Yann, bon, bah, il a fait des petits bijoux avec les Innommables. Il a donné des coups de main sur plein de trucs. Il a fait quelques bons Spirou, parce que c'est lui qui avait fait le numéro 50 sur Zorglub, qui revenait sur le passé de Spirou, qui était plutôt pas mal. Donc un scénariste qui a une tendance à être un petit peu engagé, un petit peu trash sur les bouts, etc. Et ce côté trash, on le ressent. Ce Spirou n'a pas été prépublié dans Spirou, ce qui est une chose assez rare et notable. Yann est lui aussi un vieux de la Dany est lui aussi un vieux de la vieille.
J'attendais que tu parles de Dany pour
Olivier Rameau, on le connaît, Dany, mais aussi les Black Coquines. Qui sont son best-seller, je crois. Il a fait des trucs de Black Coquine. Dany, il aime bien dessiner des jolies filles à moitié à poil. C'est sa spécialité.
Et c'est comme ça que le bouquin commence. Voilà. Dans le genre putaclic, on est bien.
Spyro et Fantasio se retrouvent confrontés à une histoire d'éco-terrorisme. Parce que, en gros, il y a des méchants qui à la Trump qui font des trucs pour avoir plein d'argent et faire
tu
du mal.
Qui ressemble à Donald Trump ?
Ouais, un peu. Et qui font tout ce qu'ils peuvent pour faire du. C'est bon, premier degré.
Je fatigue, les gars.
Mais Candide, ça va ?
Pardon. Il faut cultiver son jardin, mon bon.
Voilà.
T'avais raison de commencer une heure à l'avance, hein, parce que dans une heure, j'aurais été mais défoncé, quoi.
Donc, qui fait tout pour avoir de l'argent ? Et bien sûr, il y a un groupe d'éco-terroristes qui s'appelle la Gorgone Bleue, qui va dans ces pseudo-McDo, qui s'appellent, je ne sais plus comment.
McBurgie.
Les McBurgie, pour tout peindre en bleu, être pas content. Et voilà, vraiment pas le côté, tu sens que c'est les Sea Shepherd de mes Gorgone Bleue, en gros. Hein, c'est Sea Shepherd. On va résumer comme ça. Et voilà, si je perds contre Trump. Bref, Spyro et Fantasio se retrouvent un peu au milieu de cette histoire et vont devoir aider à lutter. Surtout qu'on découvre que Cécotine a infiltré les Gorgone Bleues, ce qui lui donne une bonne occasion d'avoir une tenue moulante bleue. Parce qu'il faut qu'elles aient des tenues moulantes. Je veux dire, c'est Dany qui dessine. C'est obligatoire. Clairement, ça a été une grosse déception. J'aime pas mal le style que Dany a donné à Spirou sur graphiquement. Il a un petit côté aventurier, un petit côté un peu plus badass que d'habitude, que j'aime bien. Mais alors le reste, du putaclic non-stop, des filles à moitié à poil dès qu'ils peuvent. Ça, on pourrait l'excuser parce que c'est son style graphique, c'est son époque, tout ce que tu veux. Le problème, c'est que j'ai l'impression que c'est totalement dans la même veine avec le scénario. C'est-à-dire que c'est un mec qui essaie de te faire une critique de ce que font les jeunes, sauf qu'il est vieux, quoi. Et qu'il y va avec ses gros sabots, il est lourd. Tu vois, c'est How do you do, fellow kids, quoi, le même avec Steve Buscemi, tu vois. C'est c'est totalement ça. Et moi, ça m'a laissé con parce que tu dis, mais c'est gros, c'est lourd la façon dont tu traites le sujet. Ça mériterait tellement plus de subtilité, de finesse. Sous prétexte de la grosse blague, ça part sur la blague, mais...
On parle des champignons ou pas ?
Ah putain, et puis les champignons, oui, c'est en plus. Enfin, oui, non, voilà. J'ai été, horrifié, parce que j'ai lu de très bonnes choses de Dany, j'ai lu de très bonnes choses de Yann.
Ça, c'est des poulpies.
Mais là, en gros, on leur donne l'occasion de faire un Spirou. Et Yann, il en a fait d'autres, des Spirou, hein. Il en a fait d'autres qui étaient pas mal. Il a fait La Femme Léopard, qui, pareil, allait chercher là-dessus. Mais ça, non, ça marche pas. Voilà. Une très, très grosse déception de ma part. Et si j'en parle, c'est vraiment parce que je m'attendais à mieux.
Ah oui.
Et vous ?
Mais alors, moi, j'ai une vraie question, pour le coup, avant qu'on fasse le tour de table. Là. Pourquoi on en parle ?
Parce que c'est une grosse déception. C'est-à-dire que moi, je suis un fan de Spirou.
Ouais, mais honnêtement, on pourrait pas parler des albums qu'on a envie de défendre ?
En temps normal, j'aurais dit la même chose que toi. Là, ça reste un Spirou. Et en fait, les gens vont dire ah ben, c'est un Spirou, je vais l'acheter à mon fils.
Non,
je vais l'acheter à mon petit-fils. Et en fait, si tu achètes ça à un gamin de 6 ou 8 ans, no, mais never.
Non, mais d'accord.
Mais le problème, c'est que tu vas pas le trouver qu'en librairie, tu vas aussi le trouver à Carrefour, quoi.
Oui, mais si tu veux, je suis pas sûr que la dame ménagère de plus de 50 ans écoute le podcast La Voix des Bulles sans vouloir être. Voilà. Et elle va l'acheter.
Oui, faut le dire. Il faut que le bouche à oreille fonctionne à un moment donné pour que la révolution se mette en place dans ce putain de pays de merde.
Ouais. Bon. Non, pas ça. Non, Spirouan.
Non, mais voilà. Alors, c'est-à-dire que. Alors, moi, déjà, à la base. Pareil, je vais faire le gros con qui aime pas les trucs des autres, mais. À chaque fois, c'est un truc comme ça. Bon, Spirou, c'est pas ma cam.
À part ce que j'achète moi, il n'y a rien qui me plaît.
À un moment donné, il faut le mettre en titre hein, quand même. Hein. C'est pas ma cam.
C'est pas ses cam.
C'est pas ses cam. Pas le ses cam.
C'est pas ma cam.
Ce soir, c'est pas le ses cam.
Colonel, c'est pas ma cam.
Après,
pas
c'est
ma
dommage que Guillaume soit pas là ce soir parce qu'il aurait pu nous dire si ça marchait.
C'est
ça,
vrai, c'est vrai.
Commercialement parlant.
Ben, on posera la question à Guillaume.
Ouais.
Il faudrait qu'il fasse des commentaires sur un truc qu'il n'écoute pas.
Hein
oui, donc voilà, c'est Spirou. Et je trouve que ça ne respecte pas l'esprit de Spirou, moi qui ne suis pas fan de Spirou. Donc là, il y a une vraie trahison. Il y a une trahison, dans le personnage de
même
Spirou.
Lui qui est pas un puriste.
Il y a une trahison dans le personnage de...
Fantasio.
Fantasio, merci. Il est monté comme ça, Fantasio aussi.
Qui a les droits de... Il y a un héritier...
Dupuis.
Non, pardon, excuse-moi. Par rapport aux auteurs originaux de Spirou.
C'était l'époque où... C'était Rob Vell qui a créé Spirou. C'était l'époque où, quand tu crées un personnage, il appartenait à l'éditeur.
Ok.
Oh la loose.
Et là, je trouve que voilà, ça trahit totalement l'esprit de Spirou. On est sur vraiment du truc putaclic tout le temps, sur toutes les pages. Toutes les meufs, elles sont Lenny Balaire, le cul à l'air, elles sont toutes en string sur la plage.
Alors qu'on n'a rien contre, mais là, c'est abusé.
Les gorgones bleues, elles sont connes comme des bûches. Enfin, c'est nul. C'est-à-dire que ça veut dénoncer de la très mauvaise façon. Et
alors, je suis pas sûr que ça veuille dénoncer. Est-ce que vous
si, ça passe son temps à être donneur de leçons au possible.
Est-ce que ça pourrait pas être, c'est une question, hein, une tentative, je parle bien d'une tentative, de satire par rapport à Spirou.
C'est possible, mais ça marche
alors,
pas.
Alors, ça s'attire tout sauf Spirou. C'est-à-dire que les éco-terroristes sont satirisés, les industriels Monsanto, Trumpistes et compagnie sont satirisés, l'armée américaine, etc., pareil. Les gens, le public, le tout un chacun, les jeunes sont tous des cons aussi.
Tout le monde est con, la et Spirou n'est que spectateur.
Et Spirou là-dedans, mais franchement, ça s'appellerait Polo, c'est pareil quoi. Il ne sert à rien, Spirou. Il n'y a rien de Spirou. Le seul qui est un peu fidèle, c'est Spip.
Ouais.
Le seul qui est un petit peu fidèle, c'est Spip.
Et encore...
De temps en temps, lâche deux, trois blagues un peu à côté de la plaque.
Mais même quand Spip te sort la blague, oh là là, c'est un ressort scénaristique un peu pourri.
Non, mais
c'est la blague de Spip à un moment qui te dit « Ah, ce ressort scénaristique est un peu pourri ».
C'est le seul qui sort.
Oui, c'est bien d'être conscient que vous faites de la merde quand même.
Maintenant, je vais mettre un grand point positif sur le traitement de la couleur.
Oui, voilà. Ça qui est bien.
Voilà.
Yo.
Ah, et oh, j'avais prévenu. Hein.
Lui, il a adoré.
Et si tu veux, il m'a coupé l'herbe sous les pieds de voir qu'il trachait autant.
Il t'a coupé la gorgone, en fait, c'est ça?
Il m'a coupé la gorgone sous le...
Toi, t'as bien aimé?
Alors...
Tu serais pas aussi...
Ah ben, en fait,
finalement, je l'aime bien.
Je vais pas trop oser le dire trop fort, parce que je pense que je pourrais me faire... Voilà. C'est peut-être pas le meilleur Spirou, mais en fait, je pense... Je vais rejoindre, en fait, l'autre côté de la table pour dire que moi aussi, je pensais que c'était, en fait, que...
C'est être une meuf.
Mais oui,
on dirait un singe.
Non, arrête,
ils ont poussé. En fait, je pense justement. Je pense que moi, je suis d'accord. En fait, c'est qu'ils ont peut-être voulu pousser tous les curseurs à donf et être vraiment dans une satire totale où on se fout de la gueule de tout le monde pour montrer en fait qu'il n'y a plus rien qui fonctionne. Tu vois, c'est moi je l'ai vu dans ce sens-là, c'est-à-dire que on vit dans un monde de merde. Alors peut-être que ça fait vieux con. Hein. Ok, je me mets dedans, mais. Mais on vit dans un monde de merde, la publicité c'est de la merde, ce qu'on bouffe c'est de la merde, nos politiques c'est de la merde, notre armée, enfin, tout le monde est... Et finalement, oui, je pense que c'est une satire totale. Après, peut-être qu'elle n'est pas finement menée, mais j'ai pas été aussi choqué que vous.
Moi, c'est plus déçu que choqué, parce que...
Non, mais alors, j'ai pas été déçu, aussi déçu que toi, je n'ai pas été aussi choqué que Tizak. Maintenant, après, oui, effectivement, si vous voulez lire un Spirou, passez sur un autre tome. Je pense qu'il y a mieux, clairement.
Il n'offrait pas ce Spirou en disant que c'est un Spirou, parce que ça ne reflète pas Spirou, quoi.
Mais par contre, moi, j'ai bien aimé quand même le traitement de... Non.
Le traitement de la quatrième.
Je peux finir quand même ou pas ?
Vas-y. Pardon.
Moi, j'ai bien aimé, par contre, du coup, le visuel de Spirou qui a quand même, qui du coup évolue, fait un peu plus de baroudeur.
Ouais, voilà, j'ai bien aimé aussi.
Ce côté un peu plus adulte. Voilà.
En même temps, c'est vrai qu'ils reviennent de Palombie, de 18
mois
en Palombie.
Et puis ils sont allés voir le marsupilami des marais.
Ouais.
Qui se fait annier avec son caca, quoi. Je trouve ça très drôle.
Il était pas mal, le marsupilami.
Ouais. Bon. Enfin, moi, ce passage-là, par exemple, justement, quand il essaye de voir enfin le documentaire qui devait passer à la télé et que ça marche pas. Enfin, bon. Non, il y a quand même des moments qui sont sympas dans le bouquin.
C'est vrai, tu vois.
Et puis, il y a. Alors, trop d'humour, tue l'humour, mais il y a quand même 25 jeux de mots par page.
Oui, au moins.
De temps en temps, il y en a un qui est bien.
Ben, tu peux pas toujours tomber juste.
Ben si.
Ah oui. Quand tu lances des sauts de balles, à un moment donné, il y en a bien une qui tombe dans le panier. Ouais.
Alors, du coup, le quatrième de couverture te propose la suite. Alors,
si tu peux mettre la cam.
Ouais, alors le quatrième de couverture, c'est surtout un clin d'œil à Bug Dany. Hein,
oui,
je pense,
c'est clair.
Voilà. Mais avec quand même le en bas, le apparaître, tu peux le lire, s'il te plaît, Jérôme ?
Bien sûr, le retour de la gorgone bleue, la revanche de la gorgone noire, gorgone bleue contre gorgone noire. Spip démissionne enfin. Là, c'est trop petit.
La mort de Scooby-Doo. Non, pardon, la mort de Sécotine.
La mort de Sécotine.
c'est moi qui fais des blagues.
Scooby-Doo, c'est notre série. Il faudrait qu'on fasse des... Pardon.
Donc voilà, enfin bref, c'est voilà.
Ça
donc,
peut être un crossover.
C'est là-dessus que je peux éventuellement rejoindre sur le fait qu'ils ont poussé tous les curseurs de « on se fout de la gueule d'eux ». Maintenant, là, en premier lieu, ils se foutent de la gueule de Spirou, de l'univers de Spirou et des amoureux de Spirou. Donc,
Mais j'aime bien l'approche de Ty quand même. Je vais un peu aller dans le sens de Thio, pardon.
En fait,
j'aime pas ton approche, toi, Ty.
Tu m'indiques du doigt et tu me dis Ty. Alors,
ça se ressemble. Non, j'aime bien l'approche de Thio parce qu'effectivement, ce côté, on a voulu pousser les curseurs à fond et ça n'a pas marché tout le temps, ça a foiré, etc. Demanderait peut-être de relire avec cette idée-là pour se dire. Peut-être qu'ils ont eu une intention et qu'ils l'ont foiré en fait. Et peut-être que ça m'a.
J'espère qu'il y avait une intention.
Peut-être que ça m'a déçu parce que je suis trop attaché au personnage de Spirou.
Voilà, c'est ce que je veux dire. Peut-être que vous êtes trop sérieux sur Spirou en fait.
Mais moi, je ne suis pas du tout attaché à Spirou, mais je trouve que ça trahit l'esprit de Spirou. Et moi, je me mets dans l'esprit de quelqu'un.
Je suis assez d'accord. C'est pour ça que je vous ai demandé s'il y avait des droits, parce que tu vois, par exemple, sur alors sans parler de Tintin, mais même sur Gaston, ça passerait jamais. Déjà, quand on voit le dernier Gaston, les problèmes qu'il y a eu pour qu'il le publie, alors qu'il fallait qu'il soit voilà, si on a vu un ayant droit qui était là. Ça n'aurait jamais pu naître, ce mais genre d'album.
Dans une émission précédente, on a chroniqué Astérix et l'Iris Blanc. On a fait comme remarque négative que c'était trop gentil, trop propre, parce que forcément, ça doit être du Astérix et Obélix et que ça doit respecter tout un cadre, tout un protocole, tout machin, tout bidule. Là, on est dans la même critique, mais pour des raisons exactement inverses, et que ça trahit totalement l'esprit de Spirou. Donc voilà, il faut juste arriver à trouver le positionnement un peu suffisamment juste, suffisamment fin pour essayer de sortir et de dépoussiérer le truc, mais pas être totalement à l'opposé de ce que ça doit être.
Il aurait fallu qu'il y ait un petit coup de tampon, la parodie.
C'est ça. Tu l'appelles Spourou ou Spiroui.
Spourri, ça a déjà été fait. Spourri.
Ouais. Ok. Voilà, bon, bref, Spirou et la Gorgone Bleue, un album.
Mais le retour de la Gorgone Noire, peut-être.
Peut-être, sait-on jamais.
Voilà. Enfin, bon, Dany continue à faire des nanas. Voilà, dans un autre contexte, on l'a.
Ah, mais voilà, c'est ça, dans un autre contexte. Tu vois, ça s'appellerait Natacha, je dis pas.
Oui, mais c'est Valtteri, Natacha.
C'est vrai, non, mais...
voilà. Non, Olivier Rameau, je ne sais plus comment elle s'appelle, celle qui accompagne Olivier Rameau, ça passait très bien. Et puis, c'était plus léger dans le thème. C'était, ouais, non, je... Bon. Spirou et la Gorgone Bleue de Yann et Dany, est sorti chez Dupuis pour 18,95€.
Un œil sur...
Les Chroniques Galactiques.
Alors, les Chroniques Galactiques, c'est un podcast qui est proposé par Hyperdrive et par Zone 52. Les Chroniques Galactiques, c'est 3 saisons de 7 épisodes, plus un épisode Horror Show. Voilà, plus les bêtisiers aussi des enregistrements de chaque saison. Mais de quoi que ça vous parle, les Chroniques Galactiques ? On va suivre donc les aventures de Wilhelm Horn, pardon, du capitaine Wilhelm Horn, et de Dan Descartes, qui sont donc deux entrepreneurs indépendants qui essayent de faire des affaires dans un monde où, malheureusement, l'Empire et quelques chasseurs de primes, ainsi que des contrebandiers, font que, bon, ben voilà, on ne peut pas faire n'importe quoi. Voilà. Bon, en fait, c'est un peu c'est des losers. C'est des losers avec du panache. Voilà. Mais. Ils font des super aventures. Ils ont donc. Il leur arrive tout un tas de choses. Ils essaient de faire des livraisons, mais forcément, ça chie. Ils ont des plans A, B, C, D, E, F, Z. Mais en fait, il n'y a pas de plan. C'est des rôlistes, mais c'est trop bon. Il y a un super bruitage. Ils ont fait. En plus, il y a plein. Entre guillemets, de personnages qui interviennent, mais qui sont en fait d'autres personnages d'autres podcasts. Et du coup, c'est très drôle quand vous reconnaissez leur voix, parce que du coup, moi, j'ai reconnu Draven, qui fait Galactifrac. Il y a aussi le Dr Zaius, qu'on a rencontré à Podcast, qui aussi intervient sur un des épisodes. Donc voilà, c'est toute une bande de potes, et ils ont fait des histoires vraiment géniales en suivant, donc justement, donc, le capitaine Wilhelm Horn et Dan Descartes, qui ont 3 saisons d'aventures complètes à vivre en podcast.
Dans le monde de Star Wars.
Dans le monde de Star Wars, avec pas de Jedi, pas de quête intergalactique de mes couilles. Eux, ils sont là juste pour essayer de faire du business. Et le business, des fois, ben, ça se règle à coup de blaster, avant même que ça ait commencé à partir en couille, parce que J'ai senti que ça allait partir en couille. Alors, j'ai tiré le premier. Voilà. Et c'est très drôle. Moi, je l'écoute avec mon fils en voiture. Et on a quasiment tout fini. Et on s'éclate bien. Voilà. Donc, vraiment, c'est une super découverte.
Un épisode de combien de temps?
Entre 10 et 15 minutes, en fonction des épisodes.
Tu as vu les autres podcasts qu'ils font, les créateurs de ce podcast ou
pas? Non.
Parce que quand j'ai cherché, je suis d'abord tombé sur le podcast.
Il y a le podcast Hyperdrive, donc, du coup, qui est un truc sur Star Wars, enfin sur l'univers Star Wars, et la zone 52, je ne sais pas du tout.
Voilà, donc c'est là-dessus, quand j'ai voulu chercher l'image, je suis tombé là-dessus en premier, donc je me posais des questions. Ok, donc vraiment un bon moment, un truc fun.
Tu rigoles bien.
Et tout public pour le coup, vu que tu dis que tu l'écoutes avec ton fils.
Oui, c'est tout public. Après, il faut avoir des petites connaissances Star Wars parce que des fois, il faut un petit peu des petites références.
Oui, mais sinon, voilà. Si t'es fan, t'es obligé de faire des références.
C'est ça. Mais vraiment, c'est un bon petit moment. Et surtout, je trouve que la prod est super bien faite au niveau des effets spéciaux. T'as vraiment les trucs de blast. T'as les batailles de blasters.
Ils ont récupéré leurs bruitages et tout.
Alors, ils ont récupéré les bruitages et les musiques de Star Wars. Comme ils disent, heureusement que pour l'instant, Lucasfilm nous a toujours pas trouvé ni de procès sur le cul. Donc, peut-être écoutez-le rapidement avant que tout disparaisse.
Téléchargez-le, même en avance, pour l'écouter plus tard.
On ne sait jamais.
Ok, les Chroniques Galactiques, 3 saisons par Hyperdrive et Zone 52. Et on le trouve sur toutes vos applications de podcast, parce que c'est pratique, les applications de podcast. Et sur les applications de podcast, mais vous pouvez trouver quoi aussi?
Nous, l'agence Louis.
C'est vraiment...
Nous sommes bien entendu présents en général sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas à nous soutenir, comme tous nos tipeurs, que nous saluons encore et toujours. À nous écouter, à écouter nos vieux épisodes, à aller faire des recherches sur des vieux trucs dont on a parlé il y a un moment où vous seriez curieux. Par exemple, vous pourriez vous demander « Ah, mais qu'est-ce que je pourrais lire comme bon Spirou ?» Ben, je suis sûr qu'il y a une chronique où on vous parle d'un bon Spirou. Il y en a.
Il y en a 75, donc allez-y, faites plaisir.
Plus les Spirou vus par, et il y en a des excellents.
Oui, il y en a des excellents.
Alors, surtout en plus, ce que je vais te dire, je crois qu'on a chroniqué quasiment tous les Spirou, parce qu'on avait refait l'intégrale.
Ouais.
Au tout début. Malgré tout, quand même.
On les a pas finis, mais oui.
Ah bah si.
Non, mais on les a pas finis en chronique.
Ah bon?
Non, on les a pas finis. J'ai pas eu les derniers encore.
Non, mais c'est vachement bien.
Non, mais je crois que tous les Spirou ont dû être chroniqués dans le podcast.
Ouais, parce que j'avais commencé à tous les acheter au début du podcast. Donc on les a
tous. Comme on avait à un moment, c'était l'intégrale, et ben du coup, on a dû faire tous les podcasts. Ouais, je crois que c'est ça.
Ouais.
Oh la vache.
Ouais, il y en avait des biens. Donc, merci encore de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. Peut-être pas d'épisode la semaine prochaine, parce que j'ai rien prévu et que j'en sais rien. On verra. Surprise. Peut-être que vous aurez un canal BD, peut-être une splash page. Ah, c'est pas rigolo de faire ça.
Non, il y avait ta femme qui a dit que si on lui trouvait un livre, on lui trouvait un roman qui avait été adapté en BD, elle parlerait du roman.
Eh, défi.
Allez.
Gros défi.
Ah ouais. Bon, il faut lui laisser le temps de le lire quand même.
Ou elle l'a déjà lu. Comme ça, du coup, tu prends de l'avance.
Ça peut être pas mal. On va trouver des bouquins qu'elle a lus qui sont adaptés. On se retrouve très bientôt. Merci encore de nous avoir écoutés. N'hésitez pas donc à aller sur lavoixdesbulles.fr pour toutes les informations nous concernant, trouver nos réseaux sociaux. N'hésitez pas à aller lire Actuel BD pour lire les meilleurs articles des BD qui sont écrits par Jérôme. N'hésitez pas à aller suivre Thio sur Instagram.
La galerie de Mathieu
pour voir ses dessins. Il y en avait pas mal les derniers. Hein. Ça,
merci.
Voilà, ça cartonnait bien. Bon, mais... Bonnes idées. Non, il y en avait un bizarre avec plein de visages et tout.
Ouais. Par contre, du coup, la galerie de Mathieu, faites attention parce que du coup, il y a aussi une vraie galerie d'art à Paris qui s'appelle la galerie de Mathieu. Et la dernière fois que j'ai voulu la taper, comme recherche, je suis tombé sur elle. J'ai fait merde, putain.
Bon, allez, on dit au revoir parce que le générique va bientôt être
tristesse quand même.
Ciao, ciao.
À bientôt.
Ciao.